Bicicletta
e Musica.
Une chronique de Samuel Ruch et Christiane Weissenbacher.
L'arrivée en Bolivie annonce un changement de paysage en même temps qu'un changement de rythme. On arrive au pied de la cordillère des Andes et il s'agit maintenant de grimper. Fini les plaines à perte de vue de la pampa paraguayenne, à nous la montagne. La cordillère des Andes apparaît à l'horizon dès le passage de la frontière entre le Paraguay et la Bolivie, qui est aussi la frontière entre la pampa et la montagne. Il me faudra environ 7 jours et près de 10 000 mètres de dénivelé positif pour arriver à Sucre. L'ascension se fait par une succession de cols et de vallées, donc de grandes montées puis de grandes descentes, et elle aboutit à des altitudes supérieures à 3000 mètres. Le voyage à vélo a ceci de magnifique qu'il permet d'avancer à vitesse humaine, donc de ressentir progressivement le changement de climat, de paysage et d'ambiance, et non pas brusquement, comme en sortant d'avion après quelques heures d'un voyage imperceptible. Cette appréciation lente des choses se situe aux antipodes de la recherche de satisfaction immédiate encouragée par la vie moderne. J'ai ainsi vécu une vraie connexion avec la nature, avec l'impression de mieux comprendre mon environnement, en étant plus attentif aux merveilles qui s'offraient à moi. Plus prosaïquement, ce rythme de voyage m'a aussi permis de m'acclimater progressivement à l'altitude et donc de ne pas souffrir du mal des montagnes. Après ces quelques jours d'ascension où j'ai dormi dans des endroits tous plus beaux les uns que les autres, je suis enfin arrivé à Sucre, la ville blanche.
C'était « Bajo los cielos de Potosí » du compositeur Mauro Núñez Cáceres, surnommé dans son pays « El Padre del Folclore Boliviano ». Il joue lui-même du charango, une sorte de petite guitare sans doute née à Potosí au XVIIIe siècle, et accompagnée ici au piano. Les jésuites se sont aussi installés dans la région forestière bordant la rivière Mamoré en Bolivie. Chez les Chiquitos à 500 km à l'est de Sucre et chez les Mochos à 500 km au nord. Et là, vu l'éloignement et l'isolement des sites, leurs traces sont restées non seulement visibles, mais carrément vivantes. Lors de sa première visite en 1991, le chef d'orchestre argentin Gabriel Garrido a pu assister à San Ignacio à un office dont la musique répétait encore l'écho des splendeurs baroques. Après qu'en 1973, l'architecte Hans Roth eut découvert des manuscrits d'époque dans les toilettes du père abbé de Santa Anna, de minutieux travaux de sauvetage furent entrepris et 5000 pages de musique sont aujourd'hui archivées à Concepción. Bon nombre d'entre elles ont donné lieu à des enregistrements, notamment grâce à Alain Paquier et à son label lorrain K617. La plupart des manuscrits retrouvés dans les anciennes réductions sont anonymes, mais ils portent la trace de deux hommes connus, Le premier est le toscan Domenico Cipolli, qui, fort d'une brillante réputation de claviériste et de compositeur à Rome, préféra s'exiler en 1717 à Cordoba, pour y mourir 9 ans plus tard, à l'âge de 38 ans. Le second est le Suisse Martin Schmidt, un homme de science plus que de musique, mais qui sut néanmoins, de 1730, date de son arrivée à Chiquitos, à 1767, date du départ de tous les jésuites, former les Indiens à la musique, adapter pour eux les œuvres de compositeurs comme Cipolli, et écrire lui-même des pages révélatrices de la sensibilité musicale des Indiens. Voici son hymne « Iste Confessor ».
Il me reste encore beaucoup de choses à voir en Bolivie avant de rejoindre le Chili. Ma route se poursuit donc vers Potosi et sa mine d'argent, la plus grande du monde, puis vers le Salar d'Uyuni.